Brigitte, Martine et les autres.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'émission Lilith, Martine et les autres sur les ondes de Radio Canu 102.2 FM, la plus féministe des radios. L'émission d'aujourd'hui porte sur les violences faites aux femmes. On va vous parler de manière très générale de comment s'articulent les violences faites aux femmes et le sexisme. On pourra entendre au cours de l'émission toutes sortes de lectures et d'interviews, et à travers ces lectures et ces interviews, parler des spécificités des violences faites aux femmes. Donc, on va parler de stratégie et de sexisme et tout ça. Donc, je vous propose de commencer par une petite définition du mot « violence » du petit Robert, ou plutôt de la définition de « faire violence ». Faire violence, agir sur quelqu'un ou le faire agir contre sa volonté en employant la force ou l'intimidation. Nous, on a choisi de vous parler plus spécifiquement des violences qui sont faites aux femmes. Il y a diverses formes de violence, physique, psychologique, sexuelle, verbale, économique, symbolique, etc., etc. Et à celles que subissent les femmes peuvent se rajouter des violences racistes, transphobes, lesbophobes, sexistes, des violences dues à des handicaps, etc., etc. Les violences physiques sont une atteinte à l'intégrité physique. Ça peut être une caresse dont on n'a pas envie, des coups, un viol, etc. Les violences psychologiques, ça peut être par exemple du harcèlement moral, de l'isolement, du chantage, des menaces, des insultes, se faire mettre la pression, et plus encore. Les violences sexuelles sont liées à la sexualité, par exemple une sexualité non choisie ou forcée, imposée, etc., etc. Bon voilà, je vais pas détailler toutes les formes de violence. Et bien sûr, il y a plusieurs dimensions aux violences. La plupart du temps, on peut pas vraiment les catégoriser aussi facilement dans une petite case verbale ou physique ou psychologique, parce que elles s'imbriquent les unes dans les autres. Par exemple, une situation de harcèlement moral peut s'accompagner d'attouchements physiques, ou parfois une situation qui commence par des violences verbales peut s'enchaîner vers des violences plus physiques. Voilà, ça s'entremêle, quoi.
Du coup, la spécificité des violences faites aux femmes est que les femmes ont une position qui font qu'elles sont considérées comme inférieures. Les hommes et les femmes ne sont pas éduqués de la même manière. Et chez les hommes, ça va plutôt être la force qui va être valorisée, alors que chez les femmes, ça va plutôt être la douceur. Du coup, les femmes et les hommes n'ont pas la même position ou les attributions sociales, et donc n'ont pas les mêmes droits et les mêmes fonctions dans la société. Le fondement du fonctionnement de notre société sont le patriarcat et l'hétérosexualité. Donc, les rôles assignés sont que les hommes ont accès au pouvoir et que les femmes sont plus là pour permettre aux hommes d'accéder au pouvoir et d'avoir une place dans la société. Concrètement, le rôle des femmes, ça va plutôt être de combler les besoins primaires des hommes. Donc ça se concrétise par faire à manger, faire le ménage, s'occuper des enfants, les élever. Et donc les hommes, concrètement, n'ont plus qu'à penser qu'à leur travail, à leurs amis, à lire, à penser, à réfléchir. Et donc ce travail des femmes n'est pas du tout reconnu, hein, mais c'est malgré tout ce travail-là qui permet aux hommes d'avoir du pouvoir. Du coup, les femmes, on peut voir que leurs chairs sont disponibles, c'est comme de la main-d'œuvre à disposition, et on peut voir que du coup, les femmes sont dépossédées de leur corps, elles n'ont pas de plein droit sur elles-mêmes. Et le sexisme est le moyen par lequel les hommes et les femmes remettent les femmes à leur place, soit parce qu'il y a eu une rébellion de la part des femmes, qu'elles refusent, qu'elles rejettent leur position, ou juste pour entretenir cette forme de domination, pour rappeler les rôles. Après, c'est pas une fatalité, c'est vrai que les choses ont changé, même si c'est très long, et que il y a aussi des moyens d'y parer. Alors ça peut prendre vraiment beaucoup beaucoup de formes différentes, par exemple une émission de radio pour se réapproprier la parole, ou on va voir tout au long de l'émission les autres moyens qui peuvent nous permettre de parer à ça.
Donc les violences faites aux femmes sont liées aux histoires de pouvoir dont on vient de parler, et ces rapports de pouvoir, sans ces rapports de pouvoir, les violences sexistes, ça pourrait pas exister en gros. Donc je vais vous donner quelques chiffres au niveau des violences faites aux femmes en France. Selon une enquête qui s'appelle l'ENVEF, qui a été réalisée en 2001 et que vous pouvez trouver aussi sur internet. En France et plus largement en Europe, la première cause de mortalité des femmes de moins de 59 ans, c'est les violences conjugales. premièrement. Deuxièmement, les femmes subissent 48 000 viols par an. Une femme sur 10 est victime de violences conjugales et 72 meurent chaque année sous les coups de leur conjoint. Chaque année, 13% des femmes subissent des agressions verbales dans l'espace public et 9% au travail. Au cours de leur vie, 11% des femmes ont été victimes d'agressions sexuelles. De plus, au Canada, où les conditions des femmes diffèrent peu d'ici, mais où les recherches et les statistiques sont plus abondantes sur le sujet, le ministère de la Sécurité publique a publié en 2006 que 82% des victimes d'agressions sexuelles sont des femmes, que une femme sur 7 est agressée sexuellement au moins une fois par son conjoint, et que dans 98% des cas déclarés à la police, l'agresseur est de sexe masculin. Et encore, ça c'est basé sur ce qui a été déclaré à la police. On peut se dire que beaucoup de femmes ne vont pas courir à la police pour déclarer qu'elles se sont fait violer ou agresser. Et aussi, il faut savoir que la plupart des agressions faites aux femmes sont réalisées par des personnes proches ou des connaissances. Ça veut dire, par exemple, le boucher, son oncle, son père ou son mari. Si vous avez besoin d'en savoir plus ou vous avez besoin d'écoute ou d'une aide, vous pouvez appeler au 3919, c'est Violence Conjugale Info, et c'est le prix d'un appel local. Ou sinon, vous pouvez aller voir le site de Femmes Info Liaison et ou Fédération Solidarité Femmes, etc. Il y a plusieurs sites sur Internet qui donnent des informations là-dessus.
On voulait aussi vous parler du consentement. Donc déjà, je vais vous donner, on a cherché un peu dans le petit Robert, on a trouvé une définition de consentir. Donc c'est marqué accepter que quelque chose se fasse ou ne pas l'empêcher. Et il y avait accompagné de cette définition un petit proverbe qui disait qui ne dit mot consent. Donc nous, on n'est pas du tout d'accord avec cette définition, parce que le petit Robert, il a un peu oublié que il y avait des rapports de pouvoir dans notre société et que ces rapports de pouvoir, ça peut empêcher à des personnes de montrer leur désaccord ou de le dire. Alors, soit parce que juste la personne est timide ou juste parce qu'on ne l'écoute pas, on ne lui laisse pas la place de parler ou qu'il ne connaît pas ou elle ne connaît pas le sujet dont il est question, tout simplement.
Oui, et puis aussi, par exemple, dans des relations d'amitié ou de couple, on peut ne pas arriver à dire ce qui nous dérange ou ce qu'on veut, ou ce qu'on aime, par peur de blesser l'autre. Et aussi, en tant que femme, on a souvent appris plutôt à faire plaisir à l'autre dans une relation plutôt que de penser à soi-même. Donc on aura souvent tendance à vouloir imaginer ce que l'autre a, ce dont l'autre a envie, plutôt. On aura plus de difficultés à savoir ce que l'on veut soi-même ou pas. Et puis c'est pas parce que on dit pas non que ça veut dire oui non plus, hein. Par exemple, si je dis c'est t'es pas mon genre ou laisse-moi tranquille ou pas maintenant ou non merci ou peut-être plus tard ou j'ai trop bu ou j'ai un copain ou une copine ou allons juste dormir ou voilà tous ces petits signes là verbaux ou non verbaux, le silence ça peut vouloir dire non aussi. Voilà.
Hay el anga naine ala net no nine no nada ala net hay el anga naine déjà petit trop de personnes voulaient prendre place dans mon cockpit sans même s'intéresser à moi sans plébiscite mais ma conduite explicite attitude interdite fait de moi le parasite l'engraineuse mon catalogue me pousse vers l'exit j'en deviens trop haineuse je me braque ça m'exaspère on dit que je suis teigneuse je me fâche si je n'ai pas ce qu'on me doit bougonneuse et là on me trouve capricieuse des mots ininterrompus à m'en donner des otites maudites quand je m'attaque aux théories je les discrédite j'irrite comme un des mortels je détériore telle une rebelle j'avoue je fous le bordel je tombe les cloisons je sors de mes gonds prends ton droit en toi, c'est facile de crier non. Inutile pour ça d'avoir des ronds. Si je vois que je sature trop, je lance mon juron. Non, nine, no, nada à la niette. Aïe, langa, nine, à la niette. Non, nine, no, nada à la niette. Aïe, langa, nine. Un peu moins petite, faire 15-16. Déferlement de bourrage de crâne, j'en deviens obèse. J'exagère, mais je rejette toute forme de charentaise. Morale ou mentale, t'as beau tout faire pour qu'elle me plaise. Impossible, y'a pas moyen, assurément. T'as dû te courir de cible. Apparemment, toi et moi, on ne lit pas la même Bible. C'est inadmissible pour ne pas dire indigestible, que ce soit moi la nuisible. Arrive, arrive l'époque innocente, soi-disant jeune, adolescente, où t'es inconsciente, où trop souvent j'entends dire, je suis une délinquante, non, je suis une maniérée, ou que j'ai des manières inconvenantes, non. Nine, nada, la niette. Ailanga, naine, à la niette, non, nine, no, nada, la niette. Ailanga, naine, rarement dans les rangs, j'ai des transpires à contre-courant, je vous ai soupir, l'excès déconcertant. Tu vois dans mon calme apparent de la nonchalance, dans ma distance, de l'ignorance, mon indépendance. Tu la transformes en arrogance, ma résistance devient extravagance. Ma maladresse n'est qu'un politesse, et tu vois dans ma gentillesse une marque de faiblesse. Conflit en conflit, faut pas craquer, même si anéanti, tu sembles ralenti. Même en sous-régime, je persévère, j'opère un changement d'atmosphère, c'est nécessaire. Réfractaire, je balance mes verres, je me défends, trop arrogant, t'es trop insultant, en pensant que je laisserai faire ma vie un enfer. Prévoyant, sans souci, ferme-moi ta prisonnière, non. Nine, no, nada à la niette. Ailanga, naine, à la niette, non. Nine, no, nada à la niette. Ailanga, naine, à la niette, non. Nine, nine, nada à la niette. Ailanga, naine, à la niette, non. Nine, no, nada à la niette. Ailanga, naine, à la niette.
Vous venez d'écouter Non de Bams.
En 1990, je monte à Paris voir un concert de Limbomaniacs, TGV, joli spin. Une certaine Camille Paglia y écrit un article qui m'interpelle et commence par me faire rigoler, dans lequel elle décrit l'effet que lui font les footballeurs sur un terrain, fascinante, bête de sexe, pleine d'agressivité. Elle commençait son papier sur toute cette rage guerrière et à quel point ça lui plaisait, cet étalage de sueur et de cuisses musclées en action. Ce qui, de fil en aiguille, l'amenait au sujet du viol. J'ai oublié ces termes exacts, mais en substance. C'est un risque inévitable, c'est un risque que les femmes doivent prendre en compte et accepter de courir si elles veulent sortir de chez elles et circuler librement. Si ça t'arrive, remets-toi debout, dust yourself et passe à autre chose. Et si ça te fait trop peur, il faut rester chez maman et t'occuper de faire ta manucure. Ça m'a révoltée sur le coup, au cœur de défense, dans les minutes qui ont suivi, de ce truc de grand calme intérieur, sonné. Camille Paglia est sans doute la plus controversée des féministes américaines. Elle proposait de penser le viol comme un risque à prendre, inhérent à notre condition de fille. Une liberté inouïe de dédramatisation. Oui, on avait été dehors, un espace qui n'était pas pour nous. Oui, on avait vécu au lieu de mourir. Oui, on était en mini-jupe, seul, sans un mec avec nous, la nuit. Oui, on avait été conne et faible, incapable de leur péter la gueule. Faible comme les filles apprennent à l'être quand on les agresse. Oui, ça nous était arrivé, mais pour la première fois, on comprenait ce qu'on avait fait. On était sortis dans la rue parce que chez papa-maman, il ne se passait pas grand-chose. On avait pris le risque, on avait payé le prix, et plutôt qu'avoir honte d'être vivante, on pouvait décider de se relever et de s'en remettre le mieux possible. Paglia nous permettait de nous imaginer en guerrière. C'était un extrait de King Kong Theory de Virginie Despentes.
Alors maintenant, on va expliquer comment la violence des femmes se construit et d'où ça vient un petit peu, parce qu'on pense que c'est un phénomène de société, et voilà. Et moi, je vais parler comment ça se construit à partir de dès la naissance de l'enfant. En fait, l'adulte, il projette sur l'enfant ce qu'il perçoit de l'enfant et par rapport à comment il est lui et comment il est construit. Et par exemple, dès la naissance, on dit c'est un petit garçon ou une petite fille. Et en énonçant ces catégories, on les nomme distinctes, qui ne sont pas perméables et qui sont naturelles. Et après, l'adulte, il renvoie des signes au nourrisson, auxquels le nourrisson répond pour plaire et sentir rassuré et en confiance. C'est comme ça que le nourrisson, il se construit. Et donc, il se construit donc à partir des signes et de son environnement. Et ça se répercute hyper rapidement dès la naissance sur son caractère et ses comportements. Alors, quand je dis ça, en fait, par exemple, il y a un exemple qui est assez croustillant, je sais pas, ou en même temps triste et dommage, c'est par rapport à l'allaitement. Une majorité des mamans ne reconnaissent pas le plaisir sexuel lié à l'allaitement et ont beaucoup de problèmes avec l'allaitement de leurs petites filles. Et en général, les petites filles, les enfants au sexe féminin sont sevrés à partir de 3 mois. Et les garçons, par rapport en contrepartie, les garçons, ça dure plus longtemps, ils sentent vachement plus confiants, à l'aise, ils mangent beaucoup plus, et les petites filles, elles, mangent moins. Et donc, en fait, ça, c'est le on voit par rapport à ça que le garçon, en fait, comme sa mère est à l'aise en l'allaitant, il prend plus de place par rapport au corps de sa femme, il se sent rassuré et donc il est plus en confiance et il mange plus. Et alors que la petite fille, elle, ça la rétracte, en fait. C'est comme ça, en fait, qu'on voit que les enfants, ils perçoivent des signes. Et dans le même sens, en fait, qu'une majorité de bébés au sexe biologique féminin ont en majorité des problèmes de sommeil et d'alimentation. Et c'est pas parce que c'est un enfant, c'est à part, en fait, mais c'est pareil, c'est parce que la mère reproduit sur sa petite fille c'est cette soumission, ses problèmes à elle, ses manques de confiance en soi et tout ça. Et donc, c'est reproduit sur la petite fille et il y a beaucoup plus d'exigences. Et la petite fille, elle les reporte sur elle-même, en fait. L'agressivité, au lieu d'être vers l'extérieur, elle est retournée contre soi. Et notamment, ça se montre dans le sommeil et dans l'alimentation. Voilà. Et c'est aussi, donc tout ça c'est tiré d'un bouquin qui s'appelle Du côté des petites filles, qui a été écrit dans les années 70 par une italienne, Elena Giannini Bellotti, qui a continué à observer des petites filles vers 18 mois. Et celles qui étaient bruyantes, joueuses, qui étaient autonomes, qui couraient dans tous les sens, en fait, ben, ces comportements-là, ils ne correspondaient pas à ce qu'on attendait des petites filles. Et en fait, en règle générale, ils étaient réprimés. Cadrées, elles étaient disputées et donc pour rentrer dans la case des petites filles. En général, la docilité, la serviabilité, la sagesse que l'on pense comme innée au sexe biologique féminin, et ça, c'est cool. Tous les milieux de la société se rejoignent là-dessus, en fait, sur le stigmate et le stéréotype de la petite fille. Donc la petite fille, c'est une poupée gentille et le garçon est un affreux bougeon que l'on aime dans tous ses travers. Et par exemple, dans le bouquin d'Elena Giani Bellotti, elle a interviewé des enseignantes d'école maternelle sur comment on lui peut... Alors moi, je vais vous le lire. Aux questions directes sur les différences de comportement entre garçons et filles à l'école, les enseignantes s'accordent pour reconnaître qu'elles existent, qu'elles sont marquées et toutes répètent la même chose. Les garçons sont plus vifs, plus bruyants, plus agressifs, plus querelleurs, moins disciplinés, plus désobéissants, plus menteurs, plus paresseux. Ils s'appliquent moins, écrivent moins bien et moins vite. Ils sont plus désordonnés, plus sales, moins intelligents. En revanche, ils sont plus autonomes, ils ont moins besoin d'affection, d'approbation et d'aide. Ils sont plus sûrs d'eux-mêmes, plus solidaires de ceux de leur sexe. Ils ont un peu plus grand sens de l'amitié, ne sont pas traîtres, ne font pas de ragots et pleurent moins. Les petites filles sont plus dociles, plus serviles, plus dépendantes du jugement de la maîtresse, plus faibles de caractère, plus pleurnicheuses, plus commères, plus rapporteuses, moins solidaires de leur sexe, moins gaies. Elles sont plus intelligentes, plus méthodiques, plus appliquées, plus ordonnées. Elles sont plus soignées dans leur toilette, plus obéissantes, plus serviables, plus fidèles, plus soigneuses, plus disciplinées. Et là-dedans, dans la vitesse avec laquelle les éducatrices, les instits énumèrent les défauts et les qualités des garçons et des filles, montrent bien à quel point elles les classent selon leur sexe et donc elles ont un comportement discriminatoire qui existe à un niveau profond. Et voilà, et donc ça montre à quel point un garçon et une petite fille doivent correspondre à des caractères, des qualités, des défauts très précis. Et donc comment en fait les instits répercutent leur propre imaginaire sur les enfants. Et donc ça enferme les petits-enfants, autant garçons que filles, parce que c'est pas un fait immuable, en fait c'est pas, nous on pense pas du tout qu'on est comme ça, c'est pas du tout une essence, mais aussi bien les garçons que les petites filles doivent rentrer dans ces deux catégories qui sont très hermétiques. Et donc cette différenciation elle perdure. Les petites filles doivent rester des petites filles qui retournent la violence contre elles, leur agressivité contre elles et ont rapidement un manque de confiance en elles. Les pleurs en cascade sont des signes du dépend d'un développement moteur, d'une créativité, d'une imagination, d'une volonté de faire des choses par elles-mêmes, d'une joie de vivre, d'une autonomie. Donc très tôt, elles apprennent à être des petites filles, cette fameuse Martine à la plage, à l'école, sage et très docile vis-à-vis de la maîtresse. Et en fait, elles subissent très rapidement l'agressivité, la violence et l'intimidation de leurs camarades à l'école. On peut tous constater comment les garçons prennent la place dans les cours d'école, courent, sautent, se salissent, et comment les petites filles restent dans leur coin. Et comment l'espace, en fait, il semble être celui des garçons qui, lui, très rapidement, apprend à être le maître de cet espace-là et à prendre corps sur les petites filles et à les impressionner en leur levant les jupes, en les poussant, en les empêchant de jouer au foot, etc. Puis comment très rapidement les filles qui jouent au foot sont des garçons manqués. Puis la littérature, les jupes des petites filles, la coiffure et tout ça, c'est un signe que voilà, la petite fille doit être sage et belle.
Alors,
Donc on va continuer un peu en parlant de l'adolescence. Donc en fait, la violence qui commence déjà à s'exprimer à l'école, elle s'arrête jamais, elle va plutôt en s'amplifiant. Donc là, on a parlé de la violence dans les cours d'école et on voit que dans les rapports amoureux, notamment, cette violence se précise, avec notamment tous les phénomènes de drague. Donc il y a très souvent agressivité de la part des garçons et passivité de la part des filles qui sont intégrées des deux côtés. Et donc on retrouve les mêmes trucs, comme on disait, les petits garçons qui lèvent la jupe des filles. Là, ça va être les garçons qui défendent le soutif des nanas dans les classes, qui ça va être tous les trucs d'incitation à « est-ce que tu veux coucher avec moi ? Si tu couches pas avec moi, je te largue ». Les filles qui sont quand même entraînées à tout le temps vouloir plaire, avoir un amoureux, ça va être des choses qu'elles vont du coup faire, probablement. Ça va être des violences qui commencent à être quand même... le truc de coucher pour pas se faire larguer, c'est quand même une violence assez conséquente. Je pense que ça laisse des séquelles. Et donc on voit, c'est toujours la même chose, c'est le corps des filles qui est de plus en plus vu comme la propriété des garçons, en fait. De l'autre côté, il y a aussi le rôle des parents, puisque en fait, on intègre très vite notre faiblesse avec des parents qui nous disent toujours « Non, tu sors pas toute seule », qui s'assurent tout le temps qu'on soit accompagné quand on rentre chez nous. Et on le voit beaucoup dans les familles où il y a un garçon et une fille, justement, que le fils, il va beaucoup plus avoir le droit de sortir, faire la fête avec ses amis que la fille, en règle générale. Donc on intègre très vite. En fait, il y a un peu deux éléments. Il y a le fait que les garçons sont de fait plus agressifs, plus violents, et le fait que les filles intègrent qu'elles ne peuvent pas se défendre. Donc ça commence bien à l'adolescence, et puis on n'en finit plus à l'âge adulte. Il y a aussi l'intégration du risque du viol. Donc c'est un peu, ça rappelle le passage de King Kong Theory qu'a lu Marion. Donc c'est cette espèce d'épée de Damoclès qu'on a tout le temps en fait au-dessus de la tête, que quand on sort, on risque de se faire violer. Donc ça veut dire où certaines elles vont être complètement inhibées, elles vont pas sortir, ou d'autres vont effectivement prendre le risque. Et puis je vais faire des zooms un peu sur des types de violences qui concernent des âges différents. C'est sûr que je les évoquerai pas toutes, mais à l'âge adulte. Il me semble aussi, c'est dans le travail que s'exerce pas mal cette violence sexiste, dans la mesure où en fait on a été éduqué à toujours devoir montrer plus de preuves, faire plus de preuves qu'on y arrive, qu'on est légitime, qu'on peut bien faire notre travail, puisque nous, par exemple dans ce qu'on a vu à l'école, que les garçons ils vont quand même y arriver, ils vont quand même passer à la classe au-dessus, alors même que ils vont être beaucoup moins bosseurs et tout ça, alors que les filles elles vont toujours avoir besoin de reconnaissance à ce niveau-là, elles vont toujours se mettre à travailler plus, etc. Ça se retrouve dans le travail où du coup, comme on n'est jamais sûr de nous et qu'on a un manque de confiance en nous, les personnes peuvent exercer des pressions psychologiques beaucoup plus facilement sur nous et nous demander de fournir un travail plus important. Donc voilà, ça c'est aussi un type de violence qu'on peut aussi retrouver dans les études par exemple. Donc voilà, en gros, tous les types de violences dont on peut être victime et qui sont dues à notre éducation et à comment on a intégré ces phénomènes.
Puis d'une manière générale, c'est vrai que on nous apprend toujours que les hommes sont plus forts que les femmes. Alors même si et que c'est pour ça qu'on ne pourra pas se défendre et qu'on court un risque quotidien. Et c'est vrai que si en moyenne... la tendance nationalement, c'est que les hommes soient plus grands et pèsent plus lourd. Ça n'est qu'une moyenne, et que dans la vie, on se retrouve face à des personnes et pas face à une moyenne. Et que en plus, on peut répondre par bien d'autres choses que la force physique. Et on verra ça dans la suite de l'émission.
Donc en fait, les conséquences un peu de tout ça, c'est qu'on intègre qu'on est faible, et donc on intègre qu'on est. Qu'on ne peut pas répondre à la colère de l'autre, qu'on ne peut pas s'énerver, que, comme tu disais Marion, c'est qu'on ne peut pas se battre, c'est que la violence, elle nous fait peur. Et en fait, on est dans une forme de servitude volontaire vis-à-vis de l'homme et d'une soumission qu'on perpétue. Et voilà. Et puis aussi, on apprend depuis toute petite à comprendre la violence et à la justifier et à être dans la compréhension. Donc malheureusement, justifier les violences de l'homme en lui donnant des excuses souvent. Et puis aussi, on ne sait pas mettre nos propres limites. On pleure à la place de s'énerver ou plein de trucs comme ça. Et c'est un peu des signes, je sais pas comment dire.
En fait, juste pour compléter sur les limites, c'est que... peut-être on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est aussi que mettre ses limites. Des fois, il y a des choses qui sont des violences et qu'on vit pas comme des violences forcément, parce qu'on nous a tellement dit que c'était normal, en fait, que nous, on va pas mettre le mot violence dessus. Et mettre le mot violence dessus, ça peut être un premier pas vers se défendre. Voilà.
êtes sur Radio Canu 102.2 et vous venez d'entendre la chanson Autodéfense de Revengers dans l'émission Lilith, Martine et les autres.
Voilà, et moi je vais vous parler un petit peu de l'autodéfense pour et par des femmes. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du Wendo. Alors, le Wendo, c'est né a priori de ce qu'on en sait au Québec. C'était des femmes ceinture noire de karaté. Une femme ceinture noire de karaté, pardon, s'est fait agresser et a pas su réagir à l'agression. Elle a pas pu se défendre, quoi. Donc, à plusieurs femmes ceinture noire de karaté, elles se sont réunies et se sont demandé, mais pourquoi on est ceinture noire de karaté et quand on se fait agresser, on n'arrive pas à riposter. Donc, elles ont créé des techniques qui sont basées sur une réflexion féministe et qui mélangent toutes sortes de techniques d'arts martiaux. Donc, en fait, ça s'est appelé le Wendo. Et ça s'est un peu développé au Canada, aux États-Unis, en Europe, dans les années 70-80. Et même, a priori, ce que j'ai entendu dire, en Inde, sous le nom de Wendido. Mais ça, c'est à vérifier. Du coup, on peut trouver des professeurs de Wendo, et on peut trouver aussi des groupes autogérés de Wendo. C'est des personnes, en général, qui ont suivi des stages de base pour apprendre les techniques de base du Wendo et qui après se réunissent fréquemment pour continuer à bien ancrer ces techniques en elles, quoi. Donc après s'est développé aussi le Femdoshi qui vient aussi du Wendo. Ça s'est développé en Suisse et c'est des techniques assez similaires et qui se basent aussi sur l'énergie sur le fait de prendre soin de soi. Donc ça se pratique, il y a des professeurs en Suisse et en France aussi. Il y a aussi le Seitobwe. C'est une technique encore un peu différente, mais dans la même philosophie, qui se pratique à Bruxelles et à Paris. Pour ce qui est de Lyon, il y a un groupe d'autodéfense autogéré qui existe encore, je pense. Il y a une nouvelle association qui s'appelle l'Association pour l'autodéfense des femmes, qui organise des stages de base d'autodéfense sur Lyon. Et par des professeurs de la région Rhône-Alpes. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer qu'il y a un stage de prévu les dimanches 8 et 15 février. Donc, si vous vous êtes intéressé, vous pouvez écrire à Autodéfense des femmes, tout attaché, @gmail.com. Voilà. Sinon, au point de vue littéraire. C'est pas de la littérature, mais c'est un livre sur l'autodéfense. Il y a un livre qui a été écrit il y a un an à peu près, qui donne des bonnes techniques verbales, physiques et psychologiques, qui s'appelle « Non, c'est non, petit manuel à l'usage des femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire ». C'est ça ? Oui, c'est ça. Et qui est écrit par Irène Zellinger, qui enseigne depuis une quinzaine d'années, je pense. Et il est très complet, très accessible. Il donne beaucoup, beaucoup de stratégies intéressantes. Et il est trouvable dans plein de petites librairies, je pense, et aussi à la FNAC, si jamais. Donc là, on va écouter une interview de Sarah, qui va nous en dire plus sur les méthodes d'autodéfense pour femmes femdoshi.
Alors, je me présente, je m'appelle Sarah, j'habite à Lausanne, et puis je suis animatrice de cours d'autodéfense femdoshi le week-end, de temps en temps. Sinon, je suis travailleuse sociale hors mur, et je travaille avec des personnes toxicomanes.
Est-ce que tu pourrais présenter les associations avec lesquelles tu travailles par rapport à l'autodéfense pour femmes ?
Alors, sur la Suisse romande, il y a deux associations qui sont impliquées dans offrir des cours d'autodéfense pour femmes. Donc, sur le canton Nouveau, c'est l'association Femdoshi, et sur Genève, c'est l'association Viol Secours qui gère tout ça. Alors, Viol Secours, c'est une association qui a été créée dans les années 80, issue vraiment des mouvements féministes pour soutenir des personnes, des femmes qui étaient victimes d'agressions sexuelles. Et l'association Femdoshi sur Vaud, c'est tout nouveau. En fait, c'est une association qui vise à promouvoir les cours d'autodéfense en Suisse romande.
que tu pourrais nous dire spécifiquement, toi, qu'est-ce que c'est ton travail dans ces associations-là? Ça consiste en quoi?
Alors, moi, je suis animatrice de cours d'autodéfense Femdoshi. Donc, le Femdoshi, c'est une forme d'autodéfense qui est très liée au Endo, en fait, pour celles qui connaissent, celles et ceux qui connaissent. Dans le cadre de ces deux associations, je donne donc des stages de 2 jours pour des femmes et des adolescentes qui sont soit des femmes qui ont été victimes de violences ou soit des personnes qui viennent aussi dans une optique de prévention.
Et alors, ces cours s'adressent que à des femmes. Pourquoi pratiquer l'autodéfense seulement entre femmes et pourquoi l'enseigner seulement par des femmes?
La méthode d'autodéfense Femdoshi a été conçue spécialement pour des femmes, en fait. Il prend en compte différents aspects et de la morphologie, de l'éducation, de différents aspects du corps de la femme et aussi et surtout, elle se focalise sur les violences qui sont faites aux femmes. Puis c'est vrai que les violences qui sont faites aux femmes sont très spécifiques. C'est pas du tout les mêmes qui sont faites aux hommes. Et du coup, notre méthode n'aurait aucun sens, en fait, à enseigner à des hommes parce que c'est pas du tout les mêmes violences, c'est pas les mêmes réactions. Et du coup, les cours, ils seraient pas pertinents du tout. C'est vrai aussi que l'autodéfense Femdoshi a été née aussi des mouvements féministes. Et pour nous, c'est aussi important d'offrir un espace privilégié en non-mixité pour les femmes, pour qu'elles puissent échanger aussi autour des questions de violence.
Qui peut participer à un stage d'autodéfense Femdoshi?
Alors pour nous, toute femme et toute adolescente qui sont intéressées peut participer à nos stages. C'est vrai qu'on travaille étroitement avec des centres d'aide aux victimes de violences qui payent souvent les stages aussi pour les femmes qui viennent. Donc on a souvent un grand mélange de femmes qui viennent dans une optique de prévention de la violence, d'autres qui viennent après avoir subi des agressions. Et puis, mais ça fait que c'est très ouvert et puis que n'importe quelle femme qui est intéressée de discuter et d'apprendre des choses autour peut venir.
Quelles sont les grandes différences entre les techniques Femdoshi, d'autodéfense pour femmes, et les différents arts martiaux ou différentes autres formes d'autodéfense?
L'autodéfense Femdoshi est vraiment conçue pour les femmes, puis c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cours d'autodéfense qui prend vraiment en compte les aspects liés aux spécificités des violences faites aux femmes, donc ça c'est une des choses qui change. L'autre chose qui change, c'est que l'autodéfense Femdoshi est enseignée que par des femmes, en fait. Donc nous, on estime que des femmes peuvent enseigner à d'autres femmes et peuvent savoir comment d'autres femmes peuvent avoir peur, quels sont les soucis, quelles sont les violences qui ont été vécues, puis que on est très intransigeant là-dessus, qu'il n'y a que des animatrices dans nos associations et que des femmes qui enseignent aux autres femmes. Et de ma connaissance, on n'a pas beaucoup d'autres méthodes qui utilisent justement ce formule-là.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu, en gros, quelles sont les techniques utilisées dans les stages Femdoshi?
Alors nous, on focalise sur plusieurs choses. On essaye de retrouver confiance dans le corps, de retrouver des armes physiques et de pratiquer des armes simples et efficaces. On met beaucoup d'emphase aussi sur des jeux de rôle, sur l'autodéfense verbale pour essayer de faire cesser des situations avant qu'ils en viennent à des coups. Et on va aussi travailler énormément sur la confiance en soi, parce qu'on trouve que c'est vraiment à la base de le fait de pouvoir se défendre, c'est aussi de pouvoir travailler notre image de soi et notre confiance en soi.
Avec quoi on peut ressortir, quel outil, quelle force on peut ressortir d'un stage Femdoshi?
Je pense qu'on ressort d'un stage Femdoshi avec des outils concrets à mettre en place tous les jours. Je pense qu'on, plus même que des outils à utiliser dans un moment de grande agression, on sort avec des outils qui nous aident à se faire respecter, à mettre des limites, à faire attention à notre sphère intime. Et ça, c'est des choses qu'on peut utiliser tous les jours. Et je pense que c'est en utilisant ces choses tous les jours aussi qu'on est plus préparé si jamais il y a une grande problème ou une grande agression qui nous arrive dessus.
D'accord. Est-ce que tu penses que les techniques Femdoshi ou d'autodéfense pour femmes et l'autodéfense féministe en général peuvent contribuer à changer la vision de la société au niveau des violences faites aux femmes et qu'est-ce que ça peut changer? C'est une grande question.
J'espère. J'espère vraiment, parce que c'est bien pour ça que je le fais aussi. Mais et puis moi, je pense que oui. Je pense que si on, le fait de réunir pendant un week-end une dizaine, une quinzaine de femmes qui n'ont pas forcément eu accès à certains messages féministes par d'autres biais, et qu'on échange ensemble, des femmes qui viennent de milieux différents, d'âges différents, qu'on échange ensemble autour de notre condition de femme et de ce qu'on subit au niveau des violences, c'est déjà énorme. Pour moi. Après, je ne suis pas sûre que ça va changer le monde, mais je crois que déjà, à une petite échelle, ça change quand même des choses.
Merci beaucoup, Sarah.
De rien.
Ouais, je compte. Ah. Un, deux, trois. Non !
Ça sature. Alors maintenant, on va écouter une interview d'un groupe de rap électro-américain qui s'appelle Scream Club, et donc elle parle de leur stratégie de défense.
Bon, alors j'interview les deux membres du groupe Scream Club, Sarah et Cindy.
We have a song about one girl gang in San Francisco. And basically they organized to support each other in artistic endeavors as well as, you know, keeping each other safe from, you know, harm. Like real physical harm on the mean streets of San Francisco. So.
Alors, c'est une chanson qui parle d'un gang de meufs qui à San Francisco, qui s'est organisé collectivement pour être en sécurité les unes les autres, pour se soutenir dans leur démarche artistique, mais aussi pour vraiment être en sécurité même physiquement. Et voilà, parce qu'il y a des rues. Mal famille à San Francisco, où c'est un peu dur. Et voilà.
There's actually a lot of violence against, especially queer women and women in general, yeah. And people in general in San Francisco. I mean, yeah, I think a lot of places.
Yeah, I think it translates to it.
I mean. Spit and Glitter is the gang from San Francisco, but we really like the concept of the girl gangs keeping each other safe and supporting each other and not, you know, because so many girls are competitive with each other and they're raised to be competitive. And I mean, in any movie that you see, any mainstream movie, I mean, it's like girls are supposed to look at each other like threats, and it's nice when, you know, they can come together. And I'm thinking that you have to translate. To say it simply, you know, it's just cool to see girls helping each other,
creating a community and not competing against each other.
Yeah.
Alors, est-ce que oui, à San Francisco, il y a pas mal de violence contre les femmes queer en particulier, mais les femmes en général et même les gens en général. Mais ce qui est pas juste à San Francisco, ce qui est quelque chose qui se voit de beaucoup d'endroits. Et dans la chanson, elle parle de ce gang Spin and Glitter à San Francisco. Ce qu'elles aiment vraiment bien chez elles, c'est que elles se soutiennent les unes les autres et elles sortent de cette espèce de compétition. Que peuvent avoir pas mal de nanas entre elles parce que juste c'est comme ça qu'elles sont éduquées et c'est ce qu'on voit dans pas mal de films mainstream où les filles sont censées être en compétition et se voir les unes les autres comme une menace et que voilà pour elles l'idée c'est vraiment chouette de voir des gens qui créent une communauté, des meufs qui créent une communauté pour se soutenir et sortir de cette compétition.
Et maintenant, la chanson I'm Going Crazy.
I'm going crazy.
J'ai appartenu à Foxfire, et Foxfire a fait de ces années des années sacrées, du moins jusqu'au dernier mois. Foxfire était une vraie bande de hors-la-loi, oui. Mais Foxfire était une vraie communauté de sœurs de sang, avec des liens forgés dans la loyauté, la fidélité, la confiance, l'amour. Oui, nous avons commis ce que vous nommeriez des crimes, dont la plupart sont restés non seulement impunis, mais ignorés, nos victimes, toutes mâles, étant trop honteuses ou trop lâches pour venir se plaindre. On a du mal à les plaindre, vous verrez. Mais n'allez pas imaginer que vers la fin, Foxfire n'en ait pas souffert, ni que celles d'entre nous qui sont encore en vie n'en souffrent pas à l'instant même. Je viens de vous lire la première page de Confession d'un gang de filles, un roman de Joyce Carol Oates, une écrivaine américaine contemporaine, qui a donc écrit un roman sur une bande d'adolescentes dans les années 50, dans l'État de New York, qui monte un gang pour se défendre de toutes les violences qui leur sont faites quotidiennement. Alors pour continuer dans cette génération de femmes, on va vous passer une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle « Bergère ».
Ah, dis-moi donc, bergère, à qui sont ces moutons? Messieurs, à la bergère, qui se les achetions? Et mon pied au derrière, devinez qui l'auront? Ah, dis-moi donc, bergère, comment me parle-t-on? Messieurs, pour vous y faire, on a changé de ton. Et mon pied au derrière n'est pas pour mes moutons. Oh, dis-moi donc, bergère, mais que s'est-il passé? Ce n'est pas du tout ce que mon père et mon grand-père m'ont raconté. Ils m'ont dit que les filles n'attendaient plus que moi, qu'avant de fonder une famille, je devais m'amuser comme un roi. Oh, dis-moi donc, bergère, tu as de bien beaux yeux. Vous parlez de mon derrière, je le sais bien, monsieur. Mais c'est pas votre affaire, le touche qui je veux. Bergère, allons, bergère, tu n'y es pas du tout. Moi, je voulais te faire un brin de cour, c'est tout. Enfin, voilà des manières, votre cour, je m'en fous. Dis-moi, dis-moi, bergère, pour qui te prends-tu donc? Sois dit sans vouloir te déplaire, tu as le nez beaucoup trop long. Tu as la taille fine, la jambe beaucoup moins. Tu n'as pas assez de poitrine et tu aurais besoin d'un shampoing. Oh non, vraiment, bergère, à bien te regarder. Vraiment, tu exagères de t'en me résister. Tu devrais être fière que je t'ai remarqué. Monsieur dit la bergère, ne faites pas rigoler ce que votre grand-père vous a pas expliqué. C'est que je les préfère un peu mieux baraquer. Et la poêle à soleil dans les yeux. N'en déplaise à monsieur votre père, vous n'êtes pas terrible, mon vieux. Suffit pas que le coq chante pour qu'on vienne en gloussant. Pour en trouver de plus causantes, faudra changer votre compliment. Tu te trompes, bergère, j'ai une fiancée qui a d'autres manières et qui sera comblée parce que je vais lui faire le 10 du mois de mai. Je sais, dit la bergère, elle est pas mal du tout. Et puis elle est pas fière, elle s'amuse sans vous. Avec mon petit frère dans le pré en dessous.
Dans le métro, une main descend doucement dans mon dos. Je la saisis, la brandis en l'air en disant bien fort:
mais c'est à qui cette main sur mon cul?
Po, 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 po. Vous êtes arrêté au feu rouge et vous entendez un automobiliste demander:
hé, hey, tu suces?
Eh ben, je vous la coupe, comme ça vous le faites vous-même.
Point, 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 point.
Je suis dans la rue. Je regonfle mon vélo. Un homme s'approche et me prend la pompe des mains.
C'est bon, laissez-moi faire.
Non, merci, j'ai un problème de valve, pas de vulve.
Tin, 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 tiring.
À la terrasse.
Ah bah tiens, je vais m'asseoir avec les gonzesses.
Eh ben non.
Actualité.
Alors oui, les actualités présentes. Donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Alors tout d'abord, on va parler de l'avortement. Parce que ces derniers temps, il y a de plus en plus de menaces sur l'avortement, notamment par la mobilisation de l'association SOS Tout Petit. Donc c'est une association catholique qui se mobilise régulièrement contre l'avortement par des réunions devant les hôpitaux où on pratique l'avortement pour prier notamment. Et en fait, j'aimerais bien rappeler que en fait, les menaces à l'avortement, c'est pas juste le fait de quelques fanatiques, mais c'est bien une réalité dans la loi française, puisque donc il y a eu l'année dernière notamment l'acte d'enfant sans vie qui a été modifié en août dernier, qui permet d'inscrire à l'état civil tout enfant né sans vie, quel que soit son stade de développement. Il y a eu aussi la tentative, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui n'a pas finalement fonctionné, mais quand même, de qualifier d'homicide involontaire la perte d'un fœtus lors d'un accident de voiture. Et il y a toujours aussi cette clause de conscience qui donne la possibilité aux médecins de refuser de pratiquer l'avortement, donc qui n'a jamais été enlevée depuis la loi Veil de 1975. De plus, en France, en fait, on a un des délais les plus courts dans toute l'Europe, puisqu'il est de 12 semaines, ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui vont avorter à l'étranger. Et donc, il y a eu plein de mobilisations dans le courant du mois de novembre pour répondre aussi aux attaques de l'association SOS Tout Petit, notamment le 15 novembre à Paris. Et à Grenoble, il y a eu la création d'un collectif qui s'appelle le FRASC, Féministe pour la réappropriation de l'avortement, des sexualités et de la contraception. Et donc, je cite, c'est un collectif qui lutte pour que soit reconnu dans les discours et la pratique le droit de chaque être humain à disposer de son corps, de ses possibilités procréatives et de sa sexualité. Donc on voit qu'il y a des personnes qui se bougent et ça fait plaisir. Voilà. Sinon, je voulais vous parler d'un petit article que j'ai lu dans Le Monde du 13 novembre. Donc en fait, c'est en Suède. Il y a 28 écoles qui sont concernées par une initiative du gouvernement qui s'est faite dans le cadre du programme sur l'égalité des sexes, qui a été lancé en 2004. En fait, c'est donc ils prennent l'exemple d'une école où ils organisent des temps en non-mixité parce qu'ils ont remarqué qu'il y a certains temps dans la journée où, il y a des vraies inégalités de traitement qui ont été remarquées entre les petites filles et les garçons. Et ça rappelle ce qu'on disait tout à l'heure. Et notamment, ils organisent des temps en non-mixité pour la gymnastique ou alors pour les repas. Parce qu'ils ont remarqué que donc durant la gymnastique, les petits garçons ils prenaient vachement de place et les filles elles restaient dans leur coin. Et elles n'osaient pas en fait se servir des coussins pour sauter. Elles n'osaient pas en fait se faire de la gymnastique, tout simplement. Et donc, du coup, ils ont organisé carrément ces temps en non-mixité. Et il y a les instits qui reconnaissent qu'elles-mêmes, en fait, et eux-mêmes, ils traitaient différemment les garçons et les filles. Et donc, ça leur a permis, ce programme-là, de se rendre compte à quel point les filles, elles avaient besoin de plus de place. Donc voilà, il y a une instite qui dit « Lorsque les enfants faisaient de la gymnastique ensemble, les garçons prenaient toute la place, ils accaparaient les jeux, ils occupaient l'espace, les filles finissaient par s'effacer. » Ensuite, de quoi je voulais vous parler ? Oui, je voulais rappeler que le 25 novembre, c'était la journée internationale contre la violence faite aux femmes. Donc il y a eu pas mal de manifs et tout à cette occasion. Et sinon, présentation des événements locaux. Donc en ce moment, à Lyon, il y a toujours le festival Briser le silence, qui est organisé par l'association Filaction. Donc c'est un festival contre les violences conjugales. Il y a déjà une très belle pièce de théâtre, moi je suis allée la voir mardi, sur les violences conjugales, qui maintenant va passer à Paris. Donc vous pouvez aller voir, si vous voulez encore avoir des infos sur le programme, vous pouvez aller voir sur leur site. Donc c'est filaction avec un s.org. À part ça, en décembre, il va y avoir un cycle de discussions, de films, de conférences autour du thème jeunesse, amour, sexualité. Donc ça va être du 9 au 11 décembre. C'est proposé par le Centre Louise Labbé. Et donc la majeure partie des événements, ça va se passer à la fac à Bron. Et pour plus d'infos, vous pouvez aller sur le site de l'Université de Lyon 2, en fait. Plus spécialement le Centre Louise Labbé, c'est http://site.univ-lyon2.fr/centre-louise-labbé/. Un peu compliqué. Donc voilà pour les infos. Est-ce qu'on a des trucs à rajouter ?
Ah oui, il y a un stage d'autodéfense pour femmes, dimanche 8 et le dimanche 15 février. C'est un stage en deux journées, donc il faut venir aux deux journées. Pour vous inscrire, vous pouvez écrire à autodéfense des femmes, tout attaché, femmes avec un S, bien sûr, @gmail.com.
Et on rappelle que vous pouvez toujours nous écrire pour si vous voulez des informations, si vous voulez proposer des thèmes d'émission, si vous voulez nous rencontrer. Donc vous pouvez nous écrire à Radio Lilith. Lilith, c'est L-I-L-I-T-H, @riseup.net. Donc riseup, c'est R-I-S-E-U-P.net. Voilà.
Et dans les histoires de réussite, en fait, il y en a qui étaient tirées de la brochure
le petit manuel d'autodéfense verbale et gestuelle à l'usage des femmes qui marchent dans la rue, prennent les transports en commun, font du vélo, sortent entre copines, fréquentent les cafés, font des achats, bref, vivent leur vie dans l'espace public.
On va donc, j'espère qu'on vous aura aussi donné de l'envie surtout de vous défendre et de vous révolter et de ne pas rester dans toute cette violence qu'on vit au quotidien.
Et on rappelle que donc la prochaine émission de Lilith Martin et les autres, c'est dans 2 semaines et ça va être sur les jouets sexistes à l'occasion de cette belle période de Noël. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés et donc la semaine prochaine c'est la déprave à 5h et dans 2 semaines c'est Lilith Martin et les autres.
Au merci, revoir. Merci, bye bye.
Au revoir.
Je crois que c'est bien.
Mais de quoi c'est comme ça? Je la frappe, c'est comme ça.
Quoi, c'est comme
tu
ça?
Tu sais ce qu'elle a fait?
Et alors?
Est-ce que tu sais ce qu'elle
alors,
a fait?
Et alors, toi t'es un bonhomme, tu crois que tu sais bien de frapper une femme sans défense?
Sans défense?
Ouais, sans défense.
Sans défense? Sans défense, et alors?
Elles sont toutes les mêmes, mis à part ma mère et mes sœurs. Si j'étais un homme, je me dirais que le sexe faible mes cœurs. Regarde ce qu'elles sont devenues, le cœur impur, les mœurs s'écrasent. L'image de la femme de prostitution et de sexe en cas. Si j'étais un homme, est-ce que je me contenterais de ces propos? En me disant que l'émancipation s'est faite malgré nous trop tôt. Qu'il faut pas confondre les rôles des dominants, dominés, obstinés comme la MLF. Condamner cette gente à sa destinée. Est-ce que je viendrais sous-estimer celles qui se battent pour réussir? Qu'elles fassent pas d'illusions sans passer sous un mec à coup sûr. Est-ce que j'interdirais à ma sœur de sortir le soir de peur qu'elle donne son cul, finisse sur un trottoir? Est-ce que je parlerai d'embrouille pour prouver que j'ai des couilles? Je serai le fier devant mes potes quand je raconterai que ma femme j'y mets des coups. Et plus je connais les femmes et plus c'est les chaînes que je découvre. Meuf du move superficiel, matérialiste qui me prouve. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire à nous respecter, raviver la flamme. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes.
C'est quelques mots.
J'étais un homme, serais-je comme la plupart homophobe? Est-ce que je suivrais la vie de l'opinion publique comme une mode? Je me dirais leur comportement.